Voilà, je me permets de bouger le micro. Alors, je suis très content de remplacer Erwan. Parce qu'il m'a écrit et il m'a dit, voilà, on attend l'arrivée d'un bébé très bientôt et on a trop de choses à préparer. Et donc, je ne pourrais pas venir. Et moi, ça m'a rempli de joie. Hein, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés et le Seigneur leur accorde cette grâce d'avoir un enfant. Et dans la même semaine, je crois 2 jours après, j'ai entendu que c'était pareil pour Esther. Mon cœur était rempli de joie. Je dis voilà, merci Seigneur. Pour ces cadeaux que tu donnes, ces petits-enfants, que le Seigneur bénisse ces grossesses et donne sa grâce. Et puis ça tombe bien parce que je vais vous montrer quelque chose. Il est trop mignon, non? Oui. On va éteindre pour mieux voir. Alors ma fille, elle voulait que nos animaux restent toujours comme ça. Hein, le chat, elle voulait que ça reste toujours un chaton. Elle n'est pas la seule. Hein. Mais ça finit toujours par devenir... Hein, le chiot finit par devenir un chien. Mais quand même, c'est trop mignon. Mais quand c'est nos propres enfants, alors là, non. Hein, on ne veut pas qu'ils restent des bébés. On ne veut pas des poupées. On veut qu'ils deviennent adultes, qu'ils terminent leur croissance, qu'ils soient capables de faire les bons choix et que les autres reconnaissent leur place, leurs actions dans notre société. Et pour Dieu, c'est pareil. Il a aussi le projet que nous devenions spirituellement des adultes. Et j'aimerais qu'on parle de ça ce matin, devenir adulte. Je vous propose de lire un texte qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 16. Alors, ce texte fait partie d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite il y a près de 2000 ans aux croyants de la ville d'Éphèse. Les ruines de cette ville sont visibles à une cinquantaine de kilomètres de la ville d'Izmir en Turquie. Et dans cette lettre, après avoir présenté la bonté de Dieu en Jésus-Christ, et avant de développer les conséquences pratiques de cette grâce dans nos vies, Paul parle de la croissance du chrétien. Alors j'ai choisi la traduction « parole de vie ». Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne seront plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Je vous invite à chercher dans ce texte le but, les moyens et les conséquences de la croissance. D'abord, je reprends le verset 13. « Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. » Dans ce verset, nous avons le but de la croissance. Et dans le texte original grec, il y a un seul verbe. Ici, je vous ai lu le verset avec trois verbes. Mais en fait, il y a un seul verbe pour les trois. D'ailleurs, d'autres traductions proposent « parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Christ, virgule, à l'état d'homme fait, virgule, à la mesure de la taille parfaite du Christ. » Parvenir. Dans ce verbe, en fait, en grec, il signifie « partir d'un endroit et venir dans un lieu opposé. » Aller vers un lieu opposé de là où on est. Le but de Dieu est donc que nous devenions tous comme Jésus, que nous quittions notre premier état, une vie sans Dieu, et que nous suivions Jésus pour devenir comme lui. Voilà le but de la croissance, atteindre la même stature, la même taille que Jésus, et pas rester juste un embryon de Jésus. Alors, comment grandir ? Dans sa lettre, Paul parle des moyens qui permettent une bonne croissance. Et il commence avec les différents dons, qu'on appelle aussi les différents ministères, que Dieu a confiés aux personnes de la communauté. Alors vous allez me dire, oui, au conseil pastoral, vous êtes quatre, donc c'est vous à qui Dieu a confié. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun d'entre nous, Dieu a donné un don, une capacité pour l'utilité commune, pour être au service les uns des autres. Et ce que Dieu nous a donné, il nous est dit au verset 15, en disant la vérité dans l'amour. Alors, le mot « dire la vérité » est traduit aussi par « professer ». C'est une façon de le dire activement. Dire activement la vérité. La vérité, Jésus a dit, c'est moi. Donc moi, je le comprends, c'est dire Jésus de façon active. Et si je dis Jésus dans l'amour, alors les gens qui m'entourent, quand je fais quelque chose dans l'amour, ils vont voir que c'est Jésus. D'ailleurs, Jésus l'a dit, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Lorsque j'utilise le don que Dieu m'a donné dans l'amour, je dis la vérité. la vérité de Jésus dans l'amour. Ceux qui sont actuellement avec les jeunes, avec les enfants, ils ont préparé ce qu'ils veulent leur donner comme enseignement. Mais s'ils le préparent et le donnent dans l'amour, ils vont dire Jésus. Quand nous visitons les malades, si nous les visitons dans l'amour, cette visite laissera quelque chose de Jésus en eux. Et quand je parle ici, si je parle dans l'amour, je vous apporte quelque chose. Des fois, il y a des gens qui prêchent pour régler leur compte. J'ai entendu une fois un pasteur qui réglait des comptes comme ça, mais ça m'a traumatisé. Je dis, mais où est l'amour, hein ? On est là pour présenter Jésus, on n'est pas là pour régler nos comptes. Nous avons reçu différents dons, nous voulons les utiliser dans l'amour de Jésus, en professant cet amour. Et puis un autre moyen de grandir, la source même de la croissance, c'est le Christ, c'est l'amour de Jésus, sa connaissance. Et d'ailleurs, Jésus le développe dans cette image qu'il donne. C'est joli, hein ? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, le bois foncé, en forme de T, c'est ce qu'on appelle le cep, hein, avec son tronc et ses bras. Et puis, vous avez en brun clair des baguettes qui montent. Ce sont les pousses de l'année qu'on appelle des sarments. Et c'est sur ces pousses de l'année qu'on trouve le raisin. Nous sommes les sarments, Jésus est le cep. Et vous voyez bien que c'est ce cep qui donne sa sève, qui transmet sa vie aux sarments. Mais dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que cette transmission de la vie de Jésus se fait aussi par tous les autres organes. Alors, un peu de biologie. Les feuilles que vous voyez sur les sarments, ils captent la lumière et ils fabriquent le sucre qui va être distribué dans toute la plante, dans tous les raisins, qui va être même donné aux racines. Et donc, les feuilles qui sont à gauche ne fabriquent pas du sucre pour le raisin qui est à gauche, ils le fabriquent pour tous les raisins qui sont sur cette photo. Nous sommes là pour transmettre l'amour de Jésus. Le texte est difficile à comprendre. Littéralement, ça veut dire par chaque liaison de la communication. Par chaque liaison de la communication. Et la traduction que je vous ai lue dit quand chaque partie fait son travail. Nous sommes les uns au service des autres et nous transmettons l'amour de Jésus. Conséquence, nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à des petits bateaux poussés dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Vous voyez que les fake news existaient déjà à cette époque-là. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Oui, un chrétien qui suit Jésus, qui est convaincu de l'amour de Dieu pour lui, qui est aimé par les membres de sa communauté et qui les aime aussi par l'aide de l'Esprit de Jésus, c'est comme une forteresse imprenable. Il y a les vagues qui arrivent avec, allez, une nouvelle doctrine fantastique. Elle n'arrivera pas à bouger parce que nous sommes ancrés en Jésus. Et une des autres conséquences, à part notre croissance, c'est aussi que l'Église s'agrandit, le corps s'agrandit, des gens se rajoutent. Et oui, l'Église grandit en qualité, mais aussi en quantité, puisque tous verront à l'amour que nous avons les uns pour les autres, qui est Jésus. Une dernière conséquence que je déduis des explications que je viens de vous donner, c'est la quasi-impossibilité d'une église numérique. J'ai vu, notre église est 100% numérique. Ok. Comment vous faites pour vous aimer comme ça, pour manger ensemble, pour parler, prier? Bon, si, on peut prier, c'est vrai. Alors, j'ai dit quasi impossible, hein, puisqu'effectivement, certains croyants n'ont pas d'autres possibilités. Hein, et on ne va pas non plus dire que c'est mal. Mais quand même, je pense que le projet de Dieu, c'est que nous formions ensemble un corps et que cette croissance ne vient pas que d'une connaissance intellectuelle, mais qu'elle vient aussi d'une connaissance les uns à travers les autres et à travers la parole. Alors, pour nous aider un petit peu à comprendre, je vous propose de regarder dans la Bible ceux qui ont eu du mal à grandir. Par exemple, le cas des croyants de Corinthe. Alors, c'est une ville grecque qui porte toujours ce nom. Et là-bas, cette église était confrontée aux vrais chrétiens. Les vrais, ceux de Paul, pas ceux d'Apollos. Vous rigolez? Il y en a d'autres qui sont carrément de la source. C'est-à-dire, ils sont de pierre, et pas juste pierre, mais pierre le Céphas avec son nom araméen. Et toi, tu es quoi comme chrétien? Paul leur écrit, dans 1 Corinthiens 3, « Vous êtes encore des enfants, ne supportant que du lait des chrétiens charnels. » Qui s'appuie sur des hommes. Il y en a qui dit « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos », au lieu de discerner que c'est Dieu qui fait croître. Et Paul leur dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » On est tous tentés, moi aussi. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais tenté de me croire justifié parce que j'étais dans telle église, dans tel mouvement, disciple de tel homme de Dieu. Et là, Paul nous dit, mais vous êtes charnel. Il nous faut apprendre à dépendre du seul fondement que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Il y en a un qui va dire, je suis de l'église catholique. Catholique signifie la seule, l'universelle. Et un autre va lui répondre, « Moi, je suis de l'Église orthodoxe. » Orthodoxe, ça veut dire la vraie doctrine. Et un autre va dire, « Non, non, moi, je suis de l'Église protestante. Je suis contre les erreurs, les 95 thèses de Luther, contre toutes ces erreurs. » Et un autre va dire, « Moi, je suis évangélique. C'est que l'Évangile, c'est ça, c'est la bonne Église. » Et on nous dit, mais non, moi je suis charismatique. J'utilise les dons du Saint-Esprit. Vous êtes charnel. Que personne, verset 21, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Paul leur dit, mais vous ne comprenez pas votre position? Vous êtes à Christ? Vous n'appartenez pas à un homme, à une église, à une idée? Vous appartenez à Christ, et tout vous appartient à travers Jésus. Mettez donc votre fierté dans le Christ Jésus. Et puis il y a le cas des Colossiens. Les croyants de la ville antique de Colosse, c'est une ville située près de la ville de Honaz en Turquie. Là-bas, l'Église est confrontée aux super-chrétiens. Les super-chrétiens de Colosse, avec des visions, des anges, des jeûnes, pas un jour, pas deux, pas trois, plein de jours, et qui savent exactement ce qu'il faut faire, manger, pas manger. Alors Paul leur écrit, « Ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. » Combien de fois on a entendu des super chrétiens qui ont mieux que Jésus, qui ont plus? Non, Paul leur dit, c'est par Christ que nous grandissons. C'est de lui que nous recevons ce que Dieu veut nous donner. Après, il y a les croyants de la Galatie. Alors là, j'ai découvert un truc de ouf. Est-ce que vous savez que le mot Galate, oui, c'est les Gaulois qui... Excellent. En fait, ça veut dire la peau laiteuse, la peau toute blanche. Et c'était effectivement des descendants de Gaulois qui avaient envahi une partie de la Turquie et qui s'étaient installés dans la région autour d'Ankara. Et donc, ces Galates, ces descendants de Gaulois, ils avaient un problème avec les chrétiens légalistes. Vous avez cru en Jésus ? Super ! Maintenant, c'est le moment d'obéir aux lois de Dieu. Les hommes, par exemple, doivent se faire circoncire. Il faut arrêter de manger du porc. Il ne faut pas commettre d'adultère, etc., etc. OK. Paul leur dit aux Galates, insensés, mais qui vous a ensorcelé ? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ, mort sur la croix, qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle ? Comment pouvez-vous être aussi insensé ? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces ? Alors ici, on ne parle pas de chrétiens qui ont du mal à grandir, on parle d'un arrêt de croissance. C'est tout terminé. Paul, il est choqué, il dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Au lieu de grandir dans la confiance en Jésus, dans l'action de son esprit en vous, certains d'entre vous veulent plaire à Dieu en accomplissant les commandements de la loi juive. Mais c'est quelque chose que personne n'a réussi à faire, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix. Et vous, vous voulez recommencer ? Et vous voulez recrucifier Jésus ensuite, une deuxième fois ? J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. C'est Paul qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est par Jésus qu'il accomplit la loi de Dieu. C'est Christ en lui qui a accompli cette loi. Les Galates voulaient être circoncis. La vraie circoncision, c'est quand Jésus rentre dans notre cœur et enlève notre nature de péché. Il ne fallait plus manger de porc. Jésus nous dit que tout est purifié par la parole et par la prière. Et le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Pierre, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Jésus nous dit que ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre bouche, parce que ça vient de notre cœur. Et l'adultère, je ne vais pas le commettre, parce que si je le fais, je vais blesser mon épouse, blesser d'autres personnes, détruire les choses que Dieu m'a données. Et par son esprit qui est en moi, je désire le contraire. Je désire construire, aimer mon épouse, aimer mes enfants, aimer ma famille. Oui, c'est Christ en nous. C'est lui qui nous transforme. Alors, je vais terminer en faisant un peu une synthèse sur une croissance réussie. Mais juste un petit retour sur le lait. Je ne parle pas des Galates qui avaient la peau couleur chocolat blanc. Il y a le reproche qui est fait aux Corinthiens qui ne supportent que du lait, que des choses simples, car ils sont dirigés par leur propre nature. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de telle église. Ils sont dirigés par leur propre nature plutôt que par l'Esprit de Dieu. Aux Hébreux aussi, il y a un reproche dans Hébreux 5. Vous êtes toujours encore au niveau des bases. Alors, il cite le renoncement aux mauvaises choses, la foi en Dieu, le baptême, la résurrection, etc. C'est des bases, mais vous vous contentez de cela au lieu de chercher à connaître Jésus-Christ dans ce qu'il est pleinement. Et donc là, le lait est montré comme étant juste un début et on ne veut pas aller plus loin. Par contre, dans la lettre de l'apôtre Pierre, il nous est parlé d'un lait spirituel et pur, dans 1 Pierre 2, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et on voit ici au verset 3 que c'est le Seigneur qui est ce lait spirituel et pur. Hein, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est lui qui est cette nourriture qui fait croître. Alors, oui, un bilan. Celui qui vit sans s'appuyer sur lui-même, mais sur Jésus, devient adulte. Celui qui met en pratique, oui, qui prend ce lait spirituel, cette nourriture qui est Dieu lui-même, sa vie en nous, sa sève en nous, va grandir. Les enfants, est-ce qu'on leur demande, allez, vas-y, grandis, fais un effort. Il grandit tout seul. Parce que c'est la nature qu'il a. Si Jésus est en nous, on va grandir. On va lui ressembler de plus en plus. Il nous fait aussi grandir dans la communauté des croyants, en utilisant les uns et les autres pour transmettre son amour et ce qui nous est nécessaire. Et j'aimerais terminer avec ce texte aux Colossiens. Qui résume un petit peu ce que je vous ai partagé ce matin. Car Dieu a voulu leur faire connaître, il parle ici oui, des non-juifs, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. C'est ce Christ que nous, nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Paul donne ce témoignage pour lui-même aussi. Il dit, moi je suis juif, je suis pharisien, descendant de la tribu de Benjamin, tout ça, je le considère comme juste de la boue et je préfère connaître Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons, te remercier parce que tu nous as donné Jésus, ton Fils. Oui, Père, tu l'as donné par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Amen.